Tout d'abord, merci à tous et à toutes, que ce soit organisateurs et participants, de me donner l'occasion de présenter la contribution de l'œuvre de Jean Gagnepain à cet ensemble de concepts fondamentaux pour les sciences humaines, à commencer par celui de structure et les autres qu'il faut leur associer. Je ferai surtout référence dans mon exposé à l'exposé central de cette anthropologie qu'a élaboré Jean Gagnepain sous le nom de « Théorie de la médiation ». J'expliquerai le terme plus tard, un peu plus loin. Et l'ouvrage s'appelle « Du vouloir dire », trois tomes, pas loin de 800 pages, mais bon. En outre, beaucoup de développement et d'éclaircissement se trouvent dans des séminaires, malheureusement inédits, mais ça va venir, ça pourra être publié petit à petit. En attendant, l'exposé le plus abordable, c'est une série de conférences sous le titre de « 8 leçons d'introduction à la théorie de la médiation » qu'on peut consulter et télécharger sur le site de l'Institut Jean Gagnepain. Pour ma part, je vous propose un parcours à travers quatre thèmes fondamentaux, celui de structure, de dialectique, de dissociation et j'ajouterai clinique, car il s'agit d'une anthropologie clinique. Et également, j'ai besoin de réfléchir sur la notion de négativité et la notion de médiation. Qu'entend-on par structuration et par dialectique dans cette anthropologie clinique spécifiquement ? Je précise maintenant qu'étant linguiste, je traiterai restrictivement du cas du langage. Alors, il est vrai que je reprends en fait en cela l'itinéraire choisi par Jean Gagnepain dans « Du vouloir dire », vous devinez à travers le titre, je le cite. « Ceci, dit-il, est un traité d'épistémologie consacré par le biais du langage à l'ensemble des sciences de la culture. » J'explique. Il est convaincu que ce qu'on appelle usuellement le langage est informé ou porte témoignage de tout ce qui nous rend humains. Par conséquent, il part du fait de dire, d'abord pour comprendre ce que dire veut dire, mais ensuite, il est contraint, on verra dans quelle, pour quelle raison, de changer d'objet et de modéliser l'ensemble des registres qui sont multiples, de ce qu'on appelle la culture ou l'humain. Il est passé d'une théorie du signe, le terme est en hommage à Papy Saussure, à une théorie de l'outil, à une sociologie de la personne, et on verra en quel sens il prend personne, et à une théorie de l'éthique. Première étape dans cette exploration rapide, la perspective clinique. Je vais changer. Oui. Attendez, c'est bon ? Oui. OK. La perspective clinique. Jean Gagnepain se réclame constamment d'une perspective clinique et sa justification, elle est méthodologique sous deux aspects. C'est une orientation, c'est un choix méthodologique. Premier aspect, pour lui, la clinique est heuristique. Jean Gagnepain pose qu'il existe des pathologies de la rationalité qui affectent sélectivement telle ou telle capacité culturelle. Des pathologies. Ainsi, en matière de langage, et c'est une première constatation, une première observation, on ne peut pas confondre l'incohérence du propos aphasique avec un délire de type psychotique, pas plus qu'avec une affabulation dans un cadre névrotique. Alors que quand on parle, ma foi, y compris en ce moment, eh bien, j'essaie d'être cohérent. Bon. Par ailleurs, je tente le plus possible de partager une langue qu'on appelle le français, et de toute façon, bon, je m'exprime avec une affectivité qui est forcément palpable. La maladie casse ce qui, chez le normal, apparaît homogène. En ce sens, elle ouvre la voie à une analyse de la rationalité. C'est son pouvoir heuristique, il s'agit de mesurer, bien entendu. Par ailleurs, la clinique, pour lui, est garante de scientificité. C'est-à-dire qu'il donne à ce que je pourrais appeler la patho-analyse un rôle de principe de réalité, un principe de résistance aux hypothèses. À la limite, on peut dire que chez lui, il y a un idéal d'anthropologie expérimentale, avec la question de savoir qu'est-ce qu'on peut entendre par expérimentation lorsque l'on cherche à objectiver ce qui est la spécificité de ce qui est humain. Mais en tout cas, pour lui, c'est le malade qui donne tort ou raison aux scientifiques qui testent un modèle explicatif. Qu'est-ce que ça donne ? Première leçon à tirer de la clinique, la nécessité de dissocier. Je cherche un petit peu, mais ouais, ça marche. Oui, bon. Il manque un, bon, il manque une diapo, quelque chose comme ça. Enfin, le premier aspect précède. Donc, principe de dissociation. Qu'est-ce que ça dissocie, la clinique ? Je vais faire ça en deux étapes. Première dissociation à travers le langage. Première dissociation, quand dire, c'est dire, et, parce qu'il ne faut pas le confondre, quand parler, c'est être. Jean Quinquepapart de Saussure, qui rejette dans son cours la notion de langage. Le langage, il met ça à la poubelle, pratiquement. Les textes sont bien connus. Le langage pris dans son tout est multiforme et hétérogène, hétéroclite même. Bien loin que l'objet précède le point de vue, c'est le point de vue qui crée l'objet. Et c'est ce à quoi oblige l'observation des aphasiques en particulier. Ça l'oblige à la fois à obéir à Saussure par l'exigence de la prise d'un point de vue, délimitation d'un type de contrainte particulière dans ce cas-là. Mais d'autre part, ça l'a conduit très rapidement à invalider ce que Saussure soutenait et qui se traduit par la formule suivante, la langue est une institution sociale. La langue, dans le sens saussurien du terme, est une institution sociale. Formule qui témoigne tout simplement du sociocentrisme de son époque. Pourquoi invalider cette notion ? Première raison, le trouble aphasique est un trouble restreint à la cohérence grammaticale du propos, ce n'est pas un trouble de la communication. On entend bien, hein ? Le dialogue est handicapé par l'aphasie, mais il y a dialogue. Alors, je vous propose un petit exemple, c'est le tournevis, voilà. Eh bien, on propose à un aphasique, je précise de type verniqué, mais peu importe ici, l'image d'un tournevis et on lui demande de le dénommer. Alors ça donne ceci, multivis, vistière, pas vistière, une vissette, pas vissette, etc., etc., sans y arriver. Alors, ce n'est pas un néologisme. Simplement, il est à la dérive grammaticale. En quelque sorte, il y a vis et il tourne vis. Je me permets ce mauvais calembour simplement pour dire que précisément un aphasique serait incapable de faire le calembour parce que ça supposerait une distance et une maîtrise de la formulation dont il n'est plus capable. Mais l'aphasique, pendant ce temps-là, demande l'aide de son interlocuteur. Il est réceptif à tout ce qu'on lui propose et il est dans la langue de l'autre. Les psychiatres parmi vous, ou cliniciens, savent qu'un délire psychotique, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a plus conversation du tout. Autre raison qui oblige à dissocier le dire du reste, c'est que la pathologie aphasique concerne le seul langage, sous son aspect grammatical et bien entendu son retentissement sémantique. Tandis que la psychose concerne tout ce qui engage une relation, la collaboration au travail, tout autant que le dialogue. En somme, se poser la question de la structure, ça ne suffit pas. Il faut aussi circonscrire l'ordre de structuration concerné. Ce n'est jamais le langage en général. Mais dans un cas, la grammaticalité, pour l'aphasie, et dans l'autre cas, la relation, incluant le dialogue, dans l'autre. Ça, c'est une première étape, une première dissociation nécessaire. Jean Quinquin ira plus loin parce que l'observation de la façon dont les malades cérébro-lésés écrivent va le conduire à montrer que, je vais être très rapide là, que l'écrit n'a pas son principe de fonctionnement dans le langage. C'est du bricolage. C'est l'application au langage, la transformation du langage par l'ingéniosité technique, par un outillage. Et par conséquent, on a besoin d'une technologie pour comprendre ce qui se passe dans l'écrit, y compris la lecture. Ceci dit, la proposition majeure de Jean Quinquin a été de partir de la distinction clinique entre psychose et névrose pour tenter de dissocier ce qui relève de ce qu'il appelle le plan du social, enfin il appelle ça le plan de la personne et de la relation, objet de la sociologie. Et d'autre part, l'ensemble du plan de l'affectivité, du désir, de l'éthique, et qu'il appelle axiologie, en reprenant un terme à la philosophie allemande, la science des valeurs, mais dans un sens un peu différent. Ça conduit par exemple à repenser la distinction entre le principe de légitimité et le principe de l'égalité, le juriste courant toujours à essayer d'ajuster les deux. Ceci étant, je précise maintenant, et c'est important, que cette dissociation, là j'aboutis à quatre, hein, dire, l'aspect technique, l'aspect social, l'aspect affectif, cette dissociation en quatre plans peut déjà être cliniquement observée dans l'observation des aptitudes naturelles de notre espèce. Ça fait belle lurette qu'on sait faire la différence entre des troubles de la perception et des troubles de la motricité, entre des agnosies et des apraxies. Mais il y a aussi des troubles de l'affectivité. Par ailleurs, bon, il y a toute une nosographie de ce point de vue. Par conséquent, pour Jean Quinquin, la culture, c'est pas elle qui fait la dissociation. La culture, quant à elle, se définit par l'aptitude à structurer dialectiquement chacun de ces quatre domaines. Ceci se trouve, je pense que c'est la diapo 3, à la fin. J'ai fait une longue citation de Quinquin que vous trouvez dans le polycopié. Je ne vais pas le commenter. C'est un peu un résumé de cette perspective dissociative. Parce que je vais en venir directement au point central de mon propos, qui est de montrer ce qu'on entend par dialectique et par structure dans ce type de démarche intellectuelle. Pour ça, il faut que je commence par expliquer ce qu'est, exposer un instant ce qu'est le terme de médiation. Jean Quinquin résume, c'est une sorte de résumé, de titre, ce qui caractérise l'humain par le concept de médiation. Comprenez-le comme étant l'antagoniste du terme d'immédiateté. Il y a ce qui est immédiat et il y a ce qui est médiat. Pourquoi ce terme ? Parce qu'il a un sens paradoxal. Ce qui arrive à beaucoup de termes de relations, tels que « entre », « la table », elle est « entre moi et vous », c'est la séparation. Mais je peux dire « entre nous », c'est la relation. On a ainsi des termes qui sont ambivalents et qui donc vont résumer une situation de paradoxe. L'aptitude humaine à la médiation, c'est l'aptitude à produire une rupture qui constitue la culture par rapport aux fonctions naturelles, quelles qu'elles soient. Mais c'est une rupture qu'en même temps, tout être humain, contradictoirement, remet en cause et relativise, relativement. Maintenant, une fois qu'on a posé que cette aptitude à la rupture est une aptitude aussi à la structuration, alors on comprend que le terme de médiation relie les deux. Maintenant, je peux préciser ce propos-là en introduisant la notion de négativité. Chez Jean Quinquin, cette jonction entre dialectique et structuration se fait à partir de la notion de négativité, qu'il trouve dans deux courants de pensée qui utilisent ce terme, mais de manière distincte. À savoir, d'un côté Hegel-Marx, du côté de la dialectique, et de l'autre Ferdinand de Saussure et son fameux système des valeurs. Quinquin capitalisent ces héritages en les transformant, en montrant leur articulation à la mesure des autres impératifs de son orientation, à savoir l'orientation clinique et la dissociation des plans. Alors, un instant sur... sur Saussure, d'abord. Bon, là, j'ai... Oui, il est cité là. La notion de négativité chez Saussure, elle est explicite, hein, elle est bien connue, en tout cas des linguistes. On a déjà évoqué ces textes-là hier, je crois, lorsqu'il dit que dans une démarche antipositiviste, hein, il dit ceci, dans tous ces cas, nous surprenons non pas des idées données d'avance, mais des valeurs émanant du système, qui sont purement différentielles, définies non pas positivement par leur contenu, mais négativement par leur rapport aux autres termes du système. Leur plus exacte définition est d'être ce que les autres ne sont pas. Je préciserai simplement qu'il ne s'agit pas chez Saussure d'une spéculation logique ou d'une prise de position logique. C'est la conclusion d'un ensemble d'observations grammaticales. C'est au terme de cela qu'il, c'est en voyant en quoi il est contraint à dire cela par l'observation et par le test. Un exemple contemporain ou simple, imaginez que je veuille dire en anglais « il travaille ». Ben, je ne peux pas, hors contexte, « il travaille ». Je ne peux pas le dire en anglais. Pourquoi ? Parce que si je dis « he works », j'ai exclu « his working ». Si je dis he's working, j'ai exclu he works, parce qu'il y a une délimitation formelle entre les deux, qui n'existe pas en français, mais il y a une délimitation qui m'oblige à penser à travers ce cadre-là. Ça, c'est l'héritage saussurien. Là où Gagnepain va se séparer de Saussure, c'est dans le fait que la perspective saussurienne n'est pas dialectique, elle est dichotomique. Ce sont les fameuses paires de Saussure. La langue et la parole, la diachronie, la synchronie, etc., etc. Et beaucoup de linguistiques contemporaines raisonnent plutôt en termes de dichotomie, enfin disons de composantes, des composantes plus ou moins variées en réseau, en algorithme, je pense à Chomsky, au courant cognitiviste, etc. La fréquentation des aphasiques, au contraire, convainc Jean Gagnepain qu'un tel modèle est trop statique. Pour Jean Gagnepain, forme et substance, comme disaient les structuralistes, bon, ce ne sont pas des lieux, ce sont des pôles antagonistes, ce sont des aptitudes qui se contredisent. La grammaire est un principe de négativité formelle qui contraint le locuteur à de la formulation, à se dessaisir de la situation, à s'en abstraire pour l'analyser par des formes. Mais il est impossible de vivre le langage sans y mettre du sens. Et là, vous comprenez qu'on rejoint l'autre tradition philosophique, c'est-à-dire le côté Marx, Engels, Marx surtout, qui conçoivent les deux, qui conçoivent la contradiction comme un procès dynamique. La négativité, c'est un dessaisissement qui n'aboutit jamais à un état, mais toute négativité est soumise à la négation de cette négativité. C'est la fameuse Aufhebung ambivalente chez Hegel. Je fais un petit bilan de la façon dont Gagnepain reprend ça, chez Marx bien sûr. Ce qu'il reprend, c'est la notion de praxis et de dialectique. Là, c'est clair, la dialectique est la pièce maîtresse d'une réflexion à laquelle personnellement je souscris, dans la mesure où, vidant le concept de ce qu'il garde inévitablement d'idéaliste, ça c'est pour Hegel, elle en fait le moteur du devenir de nos sociétés. Qu'une véritable sociologie soit là fondée, par là fondée, c'est une évidence. Ceci étant, vous imaginez aussi qu'il refuse le côté eschatologique, à la fin de l'histoire, société sans classe, chez Marx, avec l'argument suivant, l'homme ne saurait se guérir de lui-même, il faut se garder de ramener abusivement aux proportions de l'événement, ou je dirais aussi de l'époque historique, le monde du capital, hein, un conflit à proprement parler ontologique, puisque c'est lui qui, justement, fait de notre vie une histoire. Alors, il faut prendre le terme de conflit dans son sens le plus général, je dirais l'altérité, hein, c'est-à-dire l'irréductibilité de soi à tout autre. Cette altérité en nous qui ne peut être abolie par aucune mise en communauté qu'en permanence on recherche. Nous passons notre temps à passer des contrats, cet entretien en est un, mais on peut toujours se décontracter. Il critique également la proposition qui fait de la dialectique la loi de la seule histoire. Bien sûr, c'est la perspective de Marx, c'est en quelque sorte son métier. Parce qu'il y voit une réduction de l'humain à l'être social. Alors, d'où la citation, il y a une citation ici un petit peu longue, je vais résumer, je vais conclure sur ce point. Sa théorie de la médiation étend la dialectique aux quatre facultés qui constituent la culture. L'aptitude à l'histoire montre qu'il y a dialectique, mais dans l'outil il y a une dialectique également, qu'on éprouve à chaque fois qu'on est en panne, hein. Dans l'artefact, ou aux limites de l'artefact. Et il y a aussi une dynamique axiologique du désir. En quelque sorte, la dialectique, c'est une propriété générale de l'humain, une sorte de rationalité qu'il dit diffractée dans chacun de ses ordres. Mais j'ajouterai aussi dans le respect de chaque ordre de réalité. Et ça, c'est aussi un problème méthodologique important. À chaque fois, il faut faire appel à une théorisation, une terminologie qui va spécifier la notion générique de dialectique. C'est pourquoi, je passe à l'étape suivante, là, en ce moment, je vais plutôt me situer sur le plan du dire. Pas le langage, mais le fait qu'il n'y a de langage qu'à partir du moment où on dit. Alors, pour vous présenter en quoi il y a dialectique de ce point de vue-là, et non plus d'un point de vue historique ou sociologique, j'avais non pas le choix, mais la possibilité de passer par la voie de l'observation clinique, des aphasies. C'est délicat, difficile. Bon, je vais passer par la voie de la théorisation pour commencer. Qu'est-ce qu'on entend par contradiction, négativité dans ce cas-là? Bon, ben, je vais partir de l'idée commune de sens cognitif. On est supposé dire quelque chose. Oui, mais c'est pas, pour un dialecticien, ça c'est une résultante. De quelle opération mentale le raisonnement est-il produit? C'est la question. Alors, pour voir en quoi c'est dialectique, je vous propose un petit passage d'un séminaire de Jean Guingpin. Alors, c'est du verbatim, hein, de l'oralité, d'où des approximations terminologiques, mais peu importe, l'essentiel y est. Quand on parle du monde, on ne le saisira jamais comme il est. Ce qu'on saisit, c'est toujours comment nous l'humanisons. Autrement dit, on ne saisit ni l'homme ni le monde, on saisit dans la manière de le connaître, la manière dont l'homme contribue par le langage, au-delà du percept, à l'humaniser en concept. C'est ce que j'appelle, et j'ai souligné, le caractère abstrait concret du concept. Parce que vous n'avez l'expérience ni de l'abstraction, je dirais, en soi, ni du concret en soi. Vous ne pouvez pas saisir le concret indépendamment du langage. Et l'abstrait, ben, si vous croyez le saisir, c'est parce que vous réifiez les vocables, c'est-à-dire les mots. Et le vocable devenant une sorte de chose, vous sombrez dans le formalisme. Mais on ne peut être ni formaliste, ni réaliste. Bon, il conclut, c'est une ânerie substantialiste. Bon. Je ferai remarquer qu'un tel raisonnement articule trois positions. Pas deux, hein, trois. Il y a le monde, le concret, le percept. Il y a les mots, vocables, abstraction, tout ça. Et puis il y a le concept qui est concret, abstrait. Alors je voudrais préciser un instant ces trois positions. D'abord, je préciserai que ce sont des positions, il n'y a pas de chronologie là-dedans. Ce sont des relations entre positions distinctes. Il y a l'expérience. Bon, c'est-à-dire, alors j'appelle expérience ici le rapport humanisé au principe de réalité. Parce que parler de choses, toujours très délicat de parler des choses. Hein. Bon. J'ai quand même parlé de De Natura Rerum. Pourquoi? Parce que la citation commence par la nature des choses. Bon. La nature des choses, dit Jean Guingpin, inclut notre rapport à elle. La nature n'existe pas en soi Elle n'existe que pour les gens qui s'y trouvent. Nous ne saisissons jamais les choses en elles-mêmes, et nous les saisissons que dans leur rapport à nous, et leur rapport à nous fait partie de la nature. Ça vaut d'abord pour la gnosie, pour ce qui est gnosique, pour ce qui est purement cognitif, même naturellement, et c'est là-dessus que la capacité de dire, dialectise ce qui est déjà à la mesure du vivant que nous sommes, du type de vivant que nous sommes. Mais dire, ça c'est la deuxième point, dire implique un dessaisissement par rapport à ce type de rapport gnosique au monde. Un dessaisissement à travers la structuration grammaticale, sous tous ses aspects, phonologie, lexique, morphologie, syntaxe, globalement. Disons que la grammaire a ses raisons, hein, que le reste ne connaît pas. Elle contraint le locuteur à formuler son dire dans une grille de valeurs négatives qui se définissent par leurs frontières différentielles et segmentales. C'est ce qu'il appelle le pôle de la signification dans le fait de dire. Alors, on peut critiquer le formalisme, certes, mais on ne peut pas nier qu'existe de la forme grammaticale reposant sur une aptitude mentale à formaliser son dire. Celui qui sait SRN ne pourra le faire qu'en parlant, et donc qu'en passant par des structures de mots. On ne peut pas y échapper, pas plus moi que d'autres en ce moment. Maintenant, conjointement, dire consiste à nier ce pouvoir du mot, ces délimitations formelles, à en nier les délimitations, en remaniant ces frontières formelles pour constituer de nouvelles délimitations, celles du raisonnement conceptuel, dans une confrontation avec, je vais utiliser la formule, ce dont on parle. Alors, cette formule, ça recouvre tout ce qui vient contraindre l'intelligibilité à travers le langage. Alors, il y a le monde que nous percevons, c'est vrai, mais il y a surtout tout ce que culturellement nous construisons, nous constituons, techniquement, socialement, axiologiquement, et qui présente par ailleurs des propriétés structurales. Parce qu'on ne passe pas son temps, on passe la plupart de notre temps à parler de nous-mêmes et des autres, et à manifester de l'affectivité. Le langage, c'est pas fait pour désigner des tournevis seulement et parler des petits oiseaux qui passent dans le ciel. C'est de l'humain qui parle de l'humain. Il faut en tenir compte, c'est important. Mais de toute façon, il y a quelque chose comme conséquence. C'est un rejet de la tradition nomenclaturiste, ontologique, classique. La scolastique, mais aussi la grammaire générale, et même, hein, j'ai des petits-enfants, je vois bien les livres de grammaire encore aujourd'hui, on en a très souvent là. Cette scolastique disait « Veritas et adequat iure et intellectus », la vérité est la correspondance entre des mots et des choses. Une sorte d'étiquetage comme ça. Ça, c'est plus tenable. Enfin, la position de Quinquepin est la suivante, sa formulation. Point de choses à dire, préexistant à notre façon d'en parler. Prisonniers de nous-mêmes, nous devons de comprendre à notre inaptitude à contempler, nous ne pensons qu'avec des mots. Ou encore, le sens n'est point dans les choses, mais seulement dans le processus grâce auquel l'homme intelligent leur confère l'intelligibilité, etc. Et ce pôle qui produit de l'intelligibilité par contestation des frontières formelles de la grammaire, il appelle cela le pôle de la désignation. On pourrait mettre un petit tiret, désignation, désignification. Et l'ensemble qu'il appelle capacité de signe, ce n'est pas la grammaticalité en soi, ni son inverse, mais c'est la confrontation des deux dans une perspective qui donc est dialectique. Je vous propose, mais très rapidement, une petite observation clinique, tout en sachant qu'une observation clinique n'est convaincante que dans une série, dans un contexte, etc., et que là, c'est un peu caricatural. Et je voudrais vous montrer un peu ce que c'est que la dialectique, ou le problème que pose la dialectique à un aphasique, ici, de type Broca. On lui propose de remplir les pointillés de la phrase suivante, le pêcheur, etc., s'aligne dans la rivière. Et c'est là où il y a une forme de piège qui fait test. On lui propose de choisir entre écrit, temps et hameçon. Ben, il met hameçon. Le pêcheur, hameçon, s'aligne dans la rivière. Aucun problème, il ne va pas se corriger. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il dialectise. C'est-à-dire qu'il essaie d'avoir recours à des formes pour produire quelque chose qui, sémantiquement, est une cohérence. Alors, ce type d'aphasique a la possibilité de distinguer entre des mots, le rapport d'exclusion. Par conséquent, il choisit. Mais il choisit hameçon parce que, sémantiquement, ça lui paraît le plus inducteur par rapport à rivière et à pêcheur. Mais où est l'incohérence? Elle est dans un autre aspect du grammatical. Elle est dans le fait que la structure grammaticale impose un cadre quantitatif à ce qu'on dit, qui est la dimension du verbe ou la dimension du nom. Et ça, c'est ce qui est affecté dans l'aphasie de Broca. Par conséquent, ça lui suffit et il est devenu insensible. Il a perdu cette négativité qu'est le cadre du verbe et du nom, et il produit ce résultat. Vous voyez ici que c'est une atteinte spécifique à la grammaticalité, mais pas à toute la grammaticalité en plus, hein, c'est une partie simplement. Maintenant, je vous propose de compléter un petit peu ce petit voyage dans le pays du dire par quelques autres concepts. En effet, il y a un héritage de la linguistique qui oblige. Hein. La dialectique dans l'ordre du dire, elle joue sur plusieurs aspects. Et donc, le modèle a besoin d'autres concepts que simplement les notions de structure et de dialectique. C'est simple. Si vous voulez comprendre ce qui distingue un phonème d'un mot, ben la dialectique ne sert à rien parce que dans les deux cas, il y a de la dialectique. Alors, où est la distinction? Ben pour ça, il faut faire appel à d'autres concepts qui existent dans la boîte à outils des linguistes. Hein. On pourrait faire toute une histoire. Et notamment chez Saussure, on peut repartir d'un type de concept d'analyse qui sont la biaxialité, le concept d'axe et le concept de face. Donc, dans la première partie, je vais rapidement vous dire ce que c'est que cette notion d'axe. À première vue, vous comprenez que c'est une métaphore topologique. C'est sur la feuille de papier, c'est le vertical et l'horizontal. Mais alors, qu'est-ce que recouvre la métaphore ? Deux aspects de ce qu'est l'analyse en éléments distincts, en éléments dits valeurs dans la structure. Il y a d'une part cette aptitude à exclure un élément par rapport à un autre. Ça, c'est du ou bien. Si je dis ceci, je n'ai pas dit cela. Jean Quinquepin appelle ça l'aptitude taxinomique. Il appelle ça l'axe taxinomique. Ça produit de l'identité, c'est-à-dire de la différence. Et puis, il y a aussi cet autre aspect qui est le traitement de la quantité dans le dire. Et c'est ce qui est affecté, on l'a vu tout à l'heure, dans l'aphasie de Broca. Grammaticaliser ce que l'on dit, c'est construire son information dans une multiplicité de mots, ce qui implique qu'on ait la notion d'unité et qu'on sache où se trouvent les délimitations. Vous pouvez dire aussi bien une pomme de terre qu'une patate. Bon, sémantiquement, c'est équivalent. Mais vous savez aussi que disant une pomme de terre, ben vous pouvez récupérer le mot pomme pour dire la pomme d'Adam. Vous n'êtes pas obligé de tout dire en même temps. Et la terre, dans par terre. Ça se démonte. Ça se démonte. Donc, il y a des techniques de repérage des délimitations. Il existe une linguistique quantique, parce qu'on parle par quanta. Voilà pour ce type d'analyse par qualité ou quantité. Bien sûr, la grammaticalité est plus compliquée parce que ce qu'on observe constamment, c'est que ces deux capacités-là s'exercent en même temps et ça produit ce qu'on appelle des interactions entre analyses qui produisent de l'inclusion, qu'on appelle le paradigme, et de l'intégration, qu'on appelle la syntaxe. Ça peut être capté par des exemples simples. Premier aspect, première interaction entre le qualitatif et le quantitatif. Je vous propose, à l'école, d'envisager le verbe dormir. Quand on dit le verbe dormir, ce n'est pas simplement l'infinitif. Quand on dit le verbe dormir, c'est l'ensemble, je dors, tu dors, il dormira, je n'ai pas dormi, etc. C'est-à-dire, quel est ce cadre-là? Eh bien, vous avez, ça inclut de la diversité, les temps, etc., mais dans un cadre délimité du verbe, c'est-à-dire dans le cadre de l'unité. Et ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est où est la négativité? Où est le dessaisissement que proclame la dialectique? Où l'observe-t-on? Eh bien, dans le fait que quand je conjugue, tout n'est pas diversifié. Or, c'est de la diversité que découle l'information. Ce qui reste identique, à savoir, en l'occurrence, d'or, c'est ce qui n'apporte plus d'information. En quelque sorte, le paradigme empêche que je change totalement de sens lorsque je varie. C'est un principe de tautologie relative. Et ce dessaisissement est aussi observable dans ce qu'on appelle la syntaxe. Je vous ai proposé un petit exemple simple. Mes enfants lisent. Il y a un nom, il y a un verbe. OK. Donc, ça peut se démonter. Je ne suis pas forcé de dire « mes enfants », je peux dire « ils lisent ». Ça se démonte, il y a une complexité. Mais, autre chose, vous remarquez que ce qu'on appelle l'accord, il y a un pluriel dans l'on et encore un pluriel dans le verbe. Autrement dit, on a dit la même chose. En ce sens-là, la syntaxe, ça c'est son aspect le plus trivial en quelque sorte, c'est un autre aspect de la négativité grammaticale en tant qu'évidement d'information. Autrement dit, la grammaire s'oppose à ce que je renouvelle intégralement le sens quand je continue à construire la phrase. Je dis un deuxième, mais ce n'est pas parce que j'ai dit un deuxième que j'ai une totalité d'informations nouvelles. Ça continue. Il y a du même dans du multiple. Il y a une résistance à l'information dans le développement phrastique. Et c'est la grammaire qui fait ça, parce que cette résistance, elle est formelle. C'est de la forme qui reste et qui s'oppose au sens. Pourtant, le sens circule, bien sûr. Un autre concept encore qui rentre en ligne de compte dans ce genre, dans un modèle grammatical, c'est la notion de face. Chez Saussure, c'était signifié-signifiant. On peut critiquer à bien des points de vue. Là, je suis obligé d'aller vite sur ce point. Chez Jean Guingpin, dans le modèle où il y a beaucoup de néologismes, là, vous avez peut-être remarqué que j'ai jamais utilisé le terme glossologie.
Non.
Je fais exprès parce que c'est pas la peine. J'ai parlé de qu'est-ce que c'est que dire. Voilà. Ça, je pense que ça suffit pour s'entendre, pour délimiter le cadre de réflexion. Donc ce dire grammatical, il a deux aspects. L'un qu'il appelle sémiologique, alors pas au sens de la sémiotique du tout. C'est simplement une manière qui rime avec phonologique, une manière de regrouper lexique, morphologie, syntaxe. Donc il y a une structure de type sémiologique, il y a une structuration phonologique, c'est l'histoire des phonèmes, des traits, etc. Je ne détaille pas, mais parce que c'est le troisième point qui me semble important. Réfléchissons un instant à la définition de la relation entre ces deux aspects. C'est le point le plus important. En effet, la thèse structurale de la valeur chez Saussure, selon laquelle il n'y a aucune positivité, il n'y a que des délimitations. Nous sommes des animaux de traits. C'est le trait qui nous fait réfléchir. Bon, il n'existe que des délimitations. Eh bien, il y a une exigence derrière. Il faut qu'on définisse clairement le critère de ces délimitations. Et là, c'est un problème énorme. Alors, Nicolas Sergeyevitch Troubetskoy, le linguiste russe de l'école de Prague, avait fourni une grande partie de la réponse pour ce qui concerne les phonèmes. Il avait appelé ça le critère de pertinence. Il y a ce qui compte pas, et il y a ce qui compte, et qui est pertinent dans, non pas ce qu'est un « a », mais ce qui fait que, quand on dit « a », on n'a pas dit « e », le trait. Quelle est sa définition? Là, j'en redonne une, je la réactualise, parce que ça avait besoin un petit peu. Puis simplement, le plus simplement possible. On éprouve que l'on a franchi une frontière entre éléments phonologiques lorsque ce passage provoque un changement corrélatif du côté de l'autre structure, où que ce soit, dans le lexique, la syntaxe, etc. Ainsi, si je dis « je sais que je vois » et non pas « je sais qui je vois », ça va me servir à prouver qu'un « i » qui n'est pas un « e » que. Mais il faudra que j'ajoute à ça, il y a l'i et le, il y a mi et me, il y a tout ce qu'on voudra, peu importe où ça se trouve. Mais de toute façon, ça prouve qu'il y a un trait, il y a une délimitation entre i et e, entre a et e, oui, ou entre i et e dans mon exemple. Ah, réciproquement, parce que là, en quelque sorte, on a fait de la phonologie en allant chercher de l'autre côté le critère. Bon, inversons. Alors, cette fichue syntaxe, cette grammaticalité du lexique, etc., comment elle se prouve? Eh bien, elle se prouve aussi dans ce qu'on appelle un critère formel d'habitude. Hein. C'est-à-dire, ça se prouve par une carte d'identité composée de phonèmes de ces éléments. Et c'est la différence de leur carte d'identité faite de phonèmes qui va vous prouver que vous avez passé une délimitation grammaticale. On appelle ça la marque, parfois. C'est pour ça qu'en français, ben, devoir, ce n'est pas pouvoir. Il n'y a pas les mêmes phonèmes. Bon, mais pouvoir peut s'investir sémantiquement, tantôt de la capacité physique et tantôt de l'autorisation, de la permission. L'anglais, lui, va distinguer may et can. Et je le sais parce que may n'est pas fait avec les mêmes phonèmes que can. L'important là-dedans, c'est que chaque phase du grammatical fournit à l'autre la preuve de son existence. Il n'y a pas de correspondance terme à terme entre les deux, il n'y a pas d'isomorphisme. Mais cette réciprocité des critères caractérise le signe humain en tant que grammaire. Et parce que c'est un critère formel, on a recours pour la phonologie, on n'a pas recours pour la phonologie au son. Et on n'a pas recours pour ce qu'on appelait la grammaticalité lexicale, etc., au sens. On n'a pas recours au sens. Le grammatical est clos sur lui-même. J'oublie pas la dialectique, il ne faudrait surtout pas. Parce que si on l'oublie, c'est qu'on a réduit l'aptitude à dire au pôle grammatical. À ce moment-là, on formalise. C'est la tentation formaliste de prendre les phonèmes pour eux-mêmes et les mots pour eux-mêmes. Chez Jean Guinquepin, la grammaire n'est qu'un pôle de négativité qui est nié par le locuteur, qui transforme sa phonologie en prononciation et qui transforme ses structures sémiologiques grammaticales en raisonnement sémantique. Et c'est ce que je vous invite à regarder maintenant. Je vais laisser de côté... Oui, il y a une citation. Je laisse de côté l'aspect prononciation, ce serait trop long. La sémantique est un domaine où on va se retrouver plus facilement. La sémantique, dit Jean Guinquepin, se définit non pas par la transparence du message aux choses, mais par l'occasion qu'elle nous donne de remanier synonymiquement, syn onoma, et autonymiquement, auto onoma, une sémiologie, c'est-à-dire des relations grammaticales. Ça veut dire quoi? Quelques exemples. Le concept Par exemple, ben j'ai dit quoi là ? Par terre, terre. Le concept, on a l'impression qu'il est contenu dans terre. Non, ce qui est concept dans terre, c'est le fait que je fasse converger dans une synonymie par terre et sur le sol. C'est la résultante de la convergence des deux qui va exclure, bien entendu, le canari et, je ne sais pas, enfin, d'autres mots qui n'ont pas lieu d'être là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette opération-là ? La différence de mots entre sol et terre, c'est quand même bien une différence de mots, grammaticale, lexicale. Elle est annulée. Ça devient quoi ? Du concept. Et pourtant, bien sûr, terre va servir ailleurs. Terre à bâbord. Mais à ce moment-là, ce que j'ai sémantiquement dit, c'est pas terre. C'est cette convergence entre terre et côte. Et ainsi de suite. Il y a donc analyse. Mais c'est une autre analyse. Il y a de la différence, mais elle est fondée sur un autre critère qui est l'effet de résistance d'une réalité dans laquelle, à laquelle on est confronté lorsque l'on dit. Ça, c'est l'aspect qualitatif. Quant à l'aspect quantitatif, eh bien, je l'illustre par un exemple. C'est le prédicat, enfin, c'est la prédication. Petit exemple. Pris dans Ouest France, la photo du bateau du père Jaouen est en dessous. Le bateau école de l'effort. Ben, comment l'entendez-vous ? Ben, ça peut être une totalité. Ceci, hein, le bateau école de l'effort. C'est un bateau école de l'effort. Bon, c'est une première analyse. J'ai produit, une assertion d'existence de ce fait qui est par ailleurs dans l'image. Mais je peux aussi tenir un autre raisonnement. Le bateau, école de l'effort. À ce moment-là, on appelle ça la coupe prédicative. Il y a une partie, le bateau, qui est en quelque sorte hors-jeu. Enfin, les latins disaient plutôt, d'ailleurs, sub, iactum, mis en dessous, par le sujet par rapport au verbe, etc. Bon. Ce qui compte, c'est, ça sera école de l'effort, c'est là-dessus que repose l'assertion. C'est le terme prédicatif. Et là, il y a donc un réaménagement des mots. Le type de mot, etc., ne compte pas, parce que j'aurais pu dire aussi naviguer et duc. Naviguer et duc. Je peux prédiquer avec n'importe quel type de mot. Ce qui compte, c'est une autre quantité. Il y a la quantité grammaticale et il y a la quantité sémantique. Ce n'est pas la même et l'une est le renouvellement de l'autre. Je vais terminer maintenant. Je vais quitter le fait de dire. Parce qu'au départ, tout de même, je vous ai énoncé qu'il s'agissait d'une anthropologie générale. Et il est important de montrer qu'il y a une thèse chez Jean Gagnepain qui a ses limites, mais enfin qui existe en tant que thèse soutenable, que la culture dans son fonctionnement structural, avec ses caractéristiques, les faces, les axes, etc., ça dialectise les quatre domaines du vivant, distinctement, mais de manière analogue. Autrement dit, on peut trouver un dessaisissement dans chacun de ces ordres-là. C'est le principe d'analogie. Pour m'en tenir simplement au plan sociologique, parce que je peux pas, il faut que je parle de la notion de personne. Je vous ai cité, là, deuxième paragraphe, ceci. Il s'agit du fondement du social, qu'il appelle principe de personne. Il s'agit, dit-il, de cette capacité de rupture qui s'exacerbe chez le schizophrène et s'abolit chez le paranoïaque, de cette absence, oudeis en grec, qui nous est propre. Ulysse ne croyait pas si bien dire en répondant au cyclope qu'il était ou qu'il n'était personne. Là encore, comme médiation tout à l'heure, personne est un terme antinomique. Gegensinn, disaient les Allemands. Elle a un double sens. Et c'est ça son intérêt, parce qu'il, en quelque sorte, cristallise la notion de dialectique. La personne, elle est principe de présence-absence. Dans la langue, et je vais terminer par cet aspect-là, dans la langue, qu'est-ce que c'est que la rupture qu'est-ce que c'est que l'aptitude à la rupture dans la langue ? Ben, tout simplement, l'épreuve de l'altérité. Soit proprement grammatical, en exploitant la grammaire, Nos nemet din causare brezonek, piu achanor, ahelo comprenar hanun. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Je me suis absenté, un instant. Mais, si nous étions entre bretonnants, nous serions présents les uns aux autres. Bon, mais je me représente à nouveau. Il y a une dialectique. Et le fondement de la personne, il est là, de la personne sociale, puisque c'est bien entendu de la relation qui permet à la fois l'absence et la présence. Sémantiquement, nous acceptons de ne pas nous comprendre, relativement. Hein. Nous sommes toujours dans la transaction. Voilà. L'être humain, pour Jean Guingpin, se caractérise par cette médiation dialectique. Et c'est en ce sens-là que le concept, c'est le sens qu'il donne à la structure, bien spécifique. Bien sûr, il y a un autre sens qui est, c'est un modèle. Alors c'est un modèle avec différents domaines de contraintes, donc on peut appeler ça des structures, ou une structure en tant que modèle. On va chercher dans la typologie, ou dans la topologie, les plans, les pôles, les faces, les axes. Bon, c'est métaphorique tout ça, pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'aptitude à la rupture. Cette capacité de rupture qui nous fait fondamentalement homme et qui nous oblige toujours à transiger. Je vous remercie d'avoir accepté cette transaction et puis je vous invite à la continuer.